Voilà, poursuivons donc, poursuivons. Et encore une fois, ces dias sont le prétexte aux discussions qui doivent être propices à vous faire réfléchir, jusqu'à la dispensation d'un cours ex cathedra qu'il faudrait retenir dans ses moindres détails. Et donc, on parlait la fois dernière de la naissance, si je me souviens bien, de la psychologie médicale. Avec cette définition de Philippe Jamais, l'étude la plus scientifique possible des données psychologiques mises en jeu par la création d'une situation relationnelle liée à la demande de soins médicaux. Bon, historiquement, donc, ça existe depuis les années 60, c'était introduit dans les études médicales à partir de ces années-là. Au moment des plus grands succès de la médecine dite somatique, centrée sur la maladie plus que sur le malade. Et qui a montré ses limites. Et cette dialectique entre médecine somatique et médecine psychique réifie complètement l'organisation de la société. À ce point qu'il y a des hôpitaux monothématiques, psychiatriques, et qu'il n'y a pas d'hôpitaux monothématiques d'autres disciplines. Ça n'a pas été organisé comme ça. Et donc cette séparation entre maladie dite somatique et maladie psychique est largement entrée dans l'organisation même de la société. Il reste important de pouvoir vous poser cette question, bien sûr, en permanence pendant vos études, puisque la majorité des temps formels d'études sont consacrés à la compréhension de la physiopathologie de telle ou telle maladie, y compris dans le cadre de l'apprentissage des maladies psychiques, et rarement à la rencontre de tel ou tel malade pouvant parler de son expérience subjective, pouvant parler de son malaise éventuellement, ou vous renvoyer à une image de vous-même en tant qu'être peut-être déjà malade ou futur malade, ou avec différents malaises existentiels, ou qui peuvent être suscités par une inquiétude, une étrangeté de l'autre qui est rencontré. Et donc, pour pouvoir réfléchir à cette rencontre en psychologie médicale, au-delà d'une communication soignant-soigné, dont vous apprendrez les différentes étapes dans le modèle de Calgary-Cambridge, dont vous pourrez tourner des petites scénettes amusantes entre vous, j'imagine avec certains fous rires, en fonction des vignettes cliniques qui sont choisies de votre interlocuteur ou de votre interlocutrice. Au-delà de cela, il s'agit d'une fausse relation, vous n'êtes pas vraiment des vrais patients, vous n'êtes pas vraiment des vrais médecins, mais tout en étant que dans un jeu de rôle, vous pouvez vivre des choses qui sont des choses vraies. Et de la même manière, quand on étudie ou qu'on réfléchit à des situations cliniques, on peut les rendre objectives en essayant de déceler tel ou tel symptômes, on peut les rendre beaucoup plus subjectives en se questionnant sur sa manière d'être à l'autre et le malaise tel qu'il est communiqué et qu'est-ce qu'on va faire de cette information. C'est ce à quoi je vous invite, bien évidemment. Alors, elle s'intéresse à tout ce qui concerne le fonctionnement mental du malade et du médecin. Puisque les deux ont habituellement un fonctionnement mental. Elle est en faveur d'une médecine plus globale, centrée sur l'homme malade, entendez l'humain, bien sûr, mesdames. La maladie est vue comme l'expression d'un déséquilibre qui affecte toute la personnalité. Donc être malade, je dois avoir une verrue, une jambe cassée, un psoriasis, ou souffrir d'un trouble bipolaire, affectera systématiquement la totalité de la personne en ce que cela lui renverra certaines images d'elle-même, certains fonctionnements, etc. Ce ne sera pas indifférent. Alors pourquoi ? Pour considérer l'organe malade est nécessaire, mais pas suffisant. Nous ne sommes pas juste des enveloppes biologiques qui véhiculeraient une âme. S'intéresser à l'autre exclusivement dans une perspective mécanistique, opératoire, qui viserait à soigner tel foie, tel pancréas, telle main, tel pied, en faisant abstraction totalement de ce qui peut se jouer dans le psychisme de l'individu soignant et de l'individu soigné, ne serait pas adéquat. Les personnes ne sont pas insensibles à ce qui arrive dans leur corps, dans le fond. C'est bien normal. Alors, c'est l'homme en situation, dans son milieu, et avec sa personnalité propre que le soignant doit prendre en compte. En situation, attardons-nous là-dessus. De quoi s'agit-il ? Il s'agit de bien comprendre qu'une personne n'est jamais totalement isolée. Elle est toujours dans une certaine situation. Alors, il ne parle pas ici de position, mais bien de situation, de son milieu, de son environnement, de son travail, de ses relations, de sa famille, de ses ancêtres, de sa descendance, du moment de sa vie, dans quoi les choses prennent irruption. Donc, la situation, ça nous renvoie aux approches un peu plus systémiques que l'on avait vues dans les cas du cours de psychologie générale. Alors, la rationalisation de la médecine met en valeur les facteurs irrationnels. Les ignorer serait irrationnel. L'irrationnel n'est pas seulement insensé. Donc, il faut bien faire la différence entre des choses insensées, où il n'y a pas de sens, et irrationnelles, qui ne sont pas rationnelles. Et ne pas reléguer au rayon des choses insensées des aspects irrationnels. Est-ce que vous avez souvent des moments d'irrationalité en vous ? Alors, ceux qui disent non, gros menteurs. Personne n'a jamais eu de moment. Il n'y a personne qui veut signaler un moment de grande irrationalité dans sa vie. Est-ce qu'il y en a qui ont parfois peur des examens quand on est un pilier, par exemple ? Ouais. Est-ce que c'est rationnel, ça ? Ça dépend avec quel prof, évidemment. Si c'est anatomie ou d'autres choses, ouais. C'est plus ou moins rationnel. Est-ce que c'est insensé ? Non, pas forcément. Mais il faut pouvoir reconnaître et faire la différence entre les deux. Et vous voyez qu'en réfléchissant sur ce qui peut conduire certaines personnes à manifester déraisonnable ou considéré comme déraisonnable par un individu. Vous complexifiez un petit peu la chose. Ce n'est pas juste quelqu'un qui a peur pour rien, et c'est idiot, intelligent, c'est son métier, mais c'est peut-être un petit peu plus compliqué que ça. Ça renvoie peut-être à des promesses qu'on s'est faites, ou l'on a fait, ou à des parents qui disent « t'inquiète pas, ça va aller », ou ce genre de choses un peu débiloïdes et rassurantes, mais qui ne rassurent dans le fond que les parents éventuellement, etc., etc. Donc, la situation et les facteurs irrationnels, tout en ne considérant pas que les organes. Alors pourquoi encore l'histoire de chaque homme et ce qui lui permet de le connaître et de le comprendre. La maladie n'est pas cet événement frappant un individu qui l'a subi et dont toutes les forces tendent vers la guérison. C'est parce qu'on est malade qu'on a envie de guérir. On veut parfois rester malade. Ça vous arrive parfois de vouloir rester malade un petit peu ? Non ? Il n'y a personne à qui c'est arrivé. Vous avez déjà vécu des choses, j'imagine. Non ? Monsieur, donc, qui met son bic en bouche, qui a peut-être touché quelqu'un qui avait le Covid. C'est dégueulasse. C'est peut-être le truc de rétrocontrôle avec le pincement labial pour le rétrocontrôle facial. Je ne sais pas. Ça vous est déjà arrivé, ce genre de choses-là? Non. Jamais de moment d'irrationalité, jamais de moment où la maladie est quelque chose éventuellement de doux et de plaisant. Il n'y a jamais eu ça. On se dit qu'il faudrait peut-être mieux être un peu malade. Ou faire valoir ce qu'on a comme maladie. Si vous pouvez, grâce à une maladie, je ne sais pas, avoir un porté un casque, avoir une demi-heure de plus aux examens, ne pas devoir pouvoir être dans une pièce seule sans l'odeur des autres. Est-ce que ce n'est pas un gain, un bénéfice secondaire dont il pourrait éventuellement être difficile de se détacher? Pensez pas ça. Personne qui a rien à dire. Il y en a qui pensent ici. Et donc, la maladie n'est pas seulement un problème mécanique, et il peut s'agir pour un individu malade de rester dans un certain état ou de répéter des états qui la mettent dans un état d'incapacité pour toute une série de raisons. Donc s'intéresser à cette complication finalement du destin d'une maladie et d'un malade qui ne voudrait pas guérir ou qui ne guérirait pas, c'est se poser la question de son rôle, du statut qu'il a, de la notion même de maladie, de ce qu'elle apporte financièrement, de reconnaissance, de valorisation, dans le cadre des relations avec les autres. L'organisme malade est impliqué dans l'apparition, le déroulement, la guérison de la maladie. Donc, vous êtes partie prenante, finalement, de ce qui arrive à toutes les étapes, que ce soit de l'apparition ou de résolution ou de complications intermédiaires. Alors la question de la causalité est particulièrement importante. Je viens de parler un peu de complexité, donc on va arriver à cette conception multifactorielle de la maladie. Mais avant ça, voyons différentes autres causes qui peuvent exister. La causalité linéaire simple. Un agent microbien externe est cause d'une lésion d'un organe. Alors, c'est une cause linéaire simple, donc il faut cibler l'agent microbien pour pouvoir résoudre cela. C'est un principe de causalité linéaire qui a prévalu à la recherche d'une série de pathologies, y compris en santé mentale, et y compris quand on pense à la tuberculose ou la syphilis, ou à toute une série de choses, hein, où finalement les observations étaient relativement indirectes et puis ont été rassemblées sous forme de causalité linéaire simple. Une causalité circulaire avec effet de rétroaction. La réaction de l'organisme devient à son tour facteur d'agression pour lui. Bon, c'est déjà un petit peu plus compliqué. Et la conception multifactorielle, une pluralité de facteurs interagissant entre eux, génétiques, psychologiques, environnementaux. On a donc notre modèle bio, psycho et social, le fameux modèle proposé par Engel, et suffisamment complexe pour pouvoir faire intervenir. Et vous vous souvenez certainement de cette étude de Caspi sur la consommation de THC, de cannabis chez les jeunes. J'ai déjà parlé de ça en psychologie générale, hein, qui montre bien que c'est cette interaction entre l'équipement génétique de la catéchol méthyltransférase et la consommation de cannabis qui va conduire à l'expression symptomatique sous forme de psychose. En fonction du polymorphisme de ce gène. Interaction donc et multifacteur. Alors, dans cette approche, communication, parlement importante, un peu tautologique, puisque vous aurez des travaux pratiques sur la communication médecin-malade. Mais quand on parle de communication, nous parlons donc de communication verbale, communication non-verbale. On parle du postulat qu'il est impossible de ne pas communiquer. Se taire, c'est une forme de communication. Hein, refuser de dire quelque chose, c'est une forme de communication. Et tout va être interprété sous une forme de communication. Le contenu ou sens manifeste ou signifié, type de relation, c'est le sens latent ou caché, c'est le signifiant, hein, pour reprendre cette dialectique de signifié et de signifiant, et de sens manifeste et sens latent, dont nous avions déjà un peu parlé pour le travail sur les rêves. Alors, il y a une incompréhension fondamentale dans toute communication, et sur base de cette communication et de ces incompréhensions, on va essayer de comprendre ce qui se joue quand on parle à quelqu'un d'autre, et en particulier quand on parle à quelqu'un d'autre dans le cadre d'une relation de soins. Différents types donc de communication. Communication acceptée, c'est un dialogue. Position à la communication, refus. Il peut y avoir différents mécanismes d'annulation, de rejet, de déni, qui ressemblent fort au mécanisme de défense que nous avions vu antérieurement lors du premier cours de psychologie générale. Satisfaction et qualité de collaboration du patient. En psychologie médicale, on se soucie de plus en plus de la qualité de la satisfaction que ressent le patient au cours de son traitement. Alors, c'est de plus en plus vrai. On se demande, ben tiens, comment ça se passe? Et c'est vrai à tel point que le courant de la paire aidante, la PERS, c'est-à-dire de personnes comme vous et moi ayant souffert d'un trouble particulier, soit physique ou psychique, vont aider à la bonne compréhension des circuits de soins, pour pouvoir agir au sein de comités organisant ces circuits de soins dans les hôpitaux, pour pouvoir faire valoir, être porte-voix des patients, et éventuellement à d'autres niveaux et dans d'autres rôles de père aidant, aider d'autres patients qui souffrent de par leur propre expérience dans les soins. Et donc cette satisfaction est absolument indispensable. Elle est même forcée, en fait, ce questionnement sur la satisfaction. On ne peut pas forcer à quelqu'un d'être satisfait, mais on peut forcer l'implémentation de projets cliniques à implémenter dans les équipes de soins des pairs aidants, PIRS-aidants, et l'intervention de processus visant au questionnement, la qualité des soins, hein, et à la satisfaction des proches et des patients eux-mêmes. Alors c'est bien sûr une chose importante par déontologie, mais par souci d'efficacité. La satisfaction du patient est l'un des facteurs principaux qui conditionne sa collaboration au traitement. S'il n'est pas content, il ne collabore pas au traitement. C'est assez logique. Hein, si vous n'êtes pas content de quelqu'un, vous n'allez pas forcément suivre son conseil. Si vous n'êtes pas content de la relation que vous avez avec une personne, à moins d'être un petit peu masochiste, vous n'allez pas forcément retourner voir cette personne ou suivre son traitement. Et donc, c'est absolument indispensable de vous soucier en permanence de si l'information est bien comprise, de si la personne est satisfaite des soins, puisque ça viendra dire quelque chose de la suite des soins. Alors, il y a différents aspects psychologiques de la relation médecin-malade. La relation médecin-malade, c'est l'ensemble des conditions psychologiques qui influencent le type de contact qui s'établit entre le médecin et son patient. Il peut y avoir des aspects de dépendance ou de régression. Plus vous allez voir quelqu'un habituellement, plus vous avez envie de le voir, et plus vous vous sentez un petit peu seul ou en manque quand vous ne le voyez pas. C'est un peu comme un processus amoureux, dans le fond. Plus vous voyez quelqu'un, plus vous aurez envie de le voir, sauf quand ça se passe mal, bien sûr. Et vous n'avez plus envie de voir la personne, ou que ça se passe bien, puis ça se passe mal, puis ça se passe bien, puis ça se passe mal, puis ça se passe bien, puis ça se passe mal. Il y en a certains qui sont adaptés à ce genre de dynamique. Mais cette dépendance est particulièrement importante, et cette dépendance peut exister aussi dans la confiance qui va émaner de la relation, de la rencontre avec, avec vous. Il peut y avoir une régression également. Réduction spatio-temporelle, tout se passe ici et maintenant, on s'intéresse moins au reste. On ne s'intéresse qu'à soi, il y a un transfert qui peut se jouer bien sûr, et on reverra ces notions de transfert en détail. Alors dans la liste transactionnelle, vous avez les trois états du moi, je vous rappelle la deuxième topique freudienne, ça moi sur moi, le moi venant réguler les envies, les pulsions du ça, et la régulation culturelle, du surmoi. Ici, trois états du moi, parent, adulte, enfant, avec des communications de type parent, adulte et enfant. Le parent étant pris plutôt du côté du surmoi, avec un jugement de valeur, un ordre, un interdit, ça, on fait ceci, fait cela. L'adulte, la communication de type adulte serait une information objective, et enfant, une expression émotionnelle. Donc, sont ciblés dans des perspectives de relations médecin-malade collaboratives où l'interlocuteur est pris comme un expert de son vécu, avec un expert du soin, de la relation et de la technique chez, du côté du médecin, ben, serait pris, visé une relation adulte. Donc, hein. Alors d'autres techniques encore, les techniques des groupes Balint. J'ai déjà parlé de ça ou pas? Non? Personne? Non, Balint, Michael Balint, 1876-1970, médecin interne puis psychanalyste, consacré à l'étude de la relation psychologique médecin-malade, justement. Au cours des réunions de groupe, les médecins parlent de leurs attitudes et des difficultés qu'ils rencontrent avec leurs patients. Donc c'est des groupes de médecins. Pas forcément que des médecins traitants, mais c'est souvent les médecins traitants qui font ces groupes-là et qui vont discuter pourquoi cette dame vient pour la 50e fois se plaindre de sa constipation et elle a déjà tout essayé. Donc visiblement, je n'arrive pas à l'aider. Mais elle vient quand même me parler de sa constipation. Pourquoi vient-elle faire ça? Que vient-elle rechercher? Quelle est l'attitude? Quelle est la réponse? Pourquoi donnez-vous encore un médicament alors que vous savez bien que rien ne marche? Pourquoi est-ce que vous ne parlez pas de ceci ou de cela? Donc ces groupes, qui vont être des groupes de rencontres avec des pairs, PIRS médecins, permettent de réfléchir par rapport au dispositif qui est mis en place au sein de la relation médecin-malade, au sein de la consultation, pour pouvoir être un petit peu mieux équipé dans des situations extrêmement concrètes. Pas de psychothérapie pour praticiens, il ne s'agit pas de ça, mais vraiment une question de pouvoir avancer dans des situations compliquées, récurrentes, qui font partie intégrante de la prise en charge en médecine générale, pour dire que ça, mais aussi dans les autres spécialités. Alors, les différents éléments pour l'entretien avec le patient, des méthodes directives, non-directives et semi-directives. Les méthodes directives sont des questions fermées, des réponses par oui, non. Est-ce que vous fumez? Est-ce que vous mangez fort sucré? Est-ce que vous avez fréquemment en toilette? Est-ce que vous avez un listing? C'est souvent comme ça que les étudiants apprennent la médecine, avec des listings, des questions fermées et des questionnaires structurés. C'est comme ça qu'on fait de la recherche aussi, puisqu'il faut pouvoir comparer des récoltes d'informations d'un endroit à l'autre sur le globe pour pouvoir ensuite en tenir compte dans les analyses qui seront là. Méthodes non directives sont des questions ouvertes et la réponse est un champ libre. Qu'est-ce qui vous amène? Qu'avez-vous à me dire aujourd'hui? Souhaitez-vous encore me faire part d'autre chose dans le cadre de la consultation qui se termine, légèrement temporaire. Et donc vous ouvrez quelque part à ce que différentes choses puissent advenir. La méthode semi-directive entre les deux, Le médecin sait quel champ explorer, mais les questions viennent au gré des associations d'idées du patient.
Et ces patients s'exprimaient sur ses relations familiales, ses antécédents chirurgicaux, que sais-je.
Et vous ne l'interrompez pas en disant « Écoutez, c'est moi le médecin, c'est vous le patient, c'est moi qui pose les questions. » Et on reprend dans le listing ou dans l'anamnèse que l'on a en face parce qu'il faut faire des clics. Et que si on ne clique pas au bon endroit en ayant rempli la bonne case, on ne sait pas passer à l'écran suivant, par exemple. Voir donc comment vous allez structurer cette récolte d'informations. Bien sûr, en fonction des besoins et en fonction de la situation, les trois méthodes sont intéressantes. Les entretiens courts, structurés, pour évaluer la conscience d'un individu, les méthodes directives sont sûrement importantes. Un entretien, ce n'est pas une conversation sans finalité thérapeutique. C'est-à-dire que même si un entretien peut être d'allure extrêmement libre, sur base de questions ouvertes, il ne s'agit pas de conversation sans finalité thérapeutique. Différentes choses peuvent être entendues du côté du praticien et peuvent venir soutenir tant les propos que la structuration, par exemple, d'une personne qui serait plus déstructurée à un moment donné. Ce n'est pas une discussion destinée à convaincre, pas un interrogatoire systématique qui enferme le patient, qui poserait des questions avec déjà des embryons de réponses, dans lesquels le patient se trouverait bien empêché. Ce n'est pas juste un discours du médecin qui parle pour s'écouter, parce qu'il aime bien parler et qu'il aime bien s'écouter, et qu'il a des choses à dire. Alors ça peut être très coincant aussi. Ce n'est pas une confession où le patient attendrait des jugements de valeur, ou qu'on lui pardonne, il a fait ceci, il a trompé sa femme, son mari. Ce n'est pas une confession où le patient attendrait des jugements de valeur. Si vous apprenez qu'un individu a trompé un autre, il n'y a pas forcément de dose de moralité à avoir en tant que médecin, mais il y a à s'intéresser peut-être aux infections partagées, à la raison pour laquelle il y a eu ça, à l'impact que ça a dans la vie, etc. Il y a toute une série de choses et qui ne doivent pas être de l'ordre du jugement de valeur. Ça peut être compliqué si votre patient dit qu'il a trompé sa femme avec la vôtre, par exemple. Ça, il vaut mieux penser à transférer la situation à quelqu'un d'autre, bien évidemment. Toujours penser à un certain équilibre. Nous ne sommes pas des machines, dans le fond. Alors, ce qui favorise l'entretien, l'empathie. Entre apathie, l'insensibilité et sympathie, s'ouvrir avec l'empathie et la juste distance affective. Le patient sent qu'on le comprend, sent qu'il y ait identification. Alors cette empathie, elle doit se travailler. Elle doit se travailler. Et la meilleure manière de la travailler, c'est d'avoir régulièrement des moments où vous pouvez rencontrer des personnes en souffrance, rencontrer des vidéos sous forme d'histoires qui peuvent être racontées au cours, et de voir dans quelle mesure vous pouvez vous identifier à cette personne. En quoi ces fragments d'histoire peuvent résonner en vous et vous dire, bon, dans le fond, il y a peut-être des choses là qui sont de l'ordre d'une difficulté d'un vécu qu'on peut un peu mieux palper. C'est-à-dire en faisant soi ce qu'on va observer chez l'autre, sans quoi on l'aliène, on le rend complètement autre. C'est ça l'aliénation. Là où il n'y a pas d'identification possible, on est dans l'aliénation. Et pour pouvoir maintenir une capacité d'empathie suffisante, tout en étant suffisamment distant pour pouvoir faire son métier, mais proche pour pouvoir être humain avec l'individu que l'on a en face de soi, il faut être dans ce va-et-vient entre identification et distance juste pour pouvoir faire son travail. La technique ou les techniques favorisant la perception empathique du patient, la réitération, vous verrez ça
c'est répété. Donc, vous me dites que votre chat est malade. Bon, je répète la chose. Chat est malade. Reflet compréhensif. Vous allez refléter que vous avez compris, soit par votre corps, soit par la parole. L'élucidation, vous allez compléter ce qui peut se passer au travers de quelque chose que vous avez raconté. Différents moyens, donc, et vous en apprendrez d'autres. Il y a des questions à faible charge émotionnelle, d'autres à forte charge émotionnelle. On verra bien sûr, ne pas soumettre le patient trop longtemps à une charge émotionnelle trop intense, sans quoi le patient peut décompenser. Et de la même manière, si vous êtes toute la journée soumis à des choses émotionnellement très importantes et très lourdes, ben, vous-même, vous êtes sous une certaine pression, mais comme vous êtes le malade, on ne s'inquiète pas trop de ce qui peut advenir, donc vous devez être outillé. Certaines attitudes, parfois source de blocage, attitudes de support, de réassurance, ce n'est pas grave, ce n'est rien, qui va être vécu comme une banalisation excessive. Voilà, j'ai eu peur de ceci ou pas de là, ce n'est quand même rien du tout. Donc ça n'existe pas, et si ça n'existe pas et que la personne en face de vous s'identifie pleinement à ce qui lui arrive, le fait de la rassurer en banalisant est un équivalent de ne pas tenir compte de sa personne. Une attitude investigatrice, la recherche systématique de détails. Et donc, votre chat est mort. C'est un chat de quel type? Avec quel genre de poils? Il est mort comment? Voiture qui recule en arrière. Quelle marque de voiture? Quel pneu? A-t-il vu? C'est une personne âgée. Vous voyez, ça peut être vite... Les chats. L'attitude, solution du problème. Mieux vaut que le patient participe. Et donc, arriver tout le temps en vous disant « Ok, c'est bon, j'ai compris, il lui faut ça. Si elle quitte son mari, s'il quitte sa femme, s'il se bougeait un peu pour travailler, s'il avait étudié au lieu de faire la bringue, si, etc., etc., ben, ça irait. » C'est facile à résoudre quand même comme affaire. Il faut pas trois neurones pour pouvoir lui dire ce qu'il faut faire. Alors, cette attitude qui consisterait à avoir la solution pour l'autre sans que l'autre ne puisse participer à ce que cette solution puisse advenir, venir en avant, et la construire, a peu de chance finalement, non seulement de soulager quelque chose, mais d'être implémenté comme une solution par l'individu. Et donc, ce n'est pas parce que vous voyez, vous avez l'impression d'avoir bien compris ce qui se passe, d'avoir bien saisi, et que l'autre va vous dire ceci, ceci, cela, que c'est exactement comme ça qu'il faut faire. Pas pour ça que vous avez tort non plus. Mais dans ce qui va être recevable, transmissible, comme dans toute négociation, on a toujours plus de poids à faire croire à l'autre que la solution vient de lui et que c'est, somme toute, la meilleure, puisqu'il y a pensé. Donc, tout l'art est également d'accompagner et non pas de faire le plombier, d'apporter ce qui manque. Une image, hein, faire le plombier. Alors, les silences, ils doivent être respectés, mais sans excès. Un silence peut être une ponctuation, une tension dans un discours. On peut permettre à une personne de se regarder, de réfléchir. Mais ça peut être aussi extrêmement malsain de laisser une personne carburer dans son coin, être bloquée sur des choses qu'elle ne sait pas dire, et n'avoir personne qui la sort de cet état de prostration mentale qui nécessite qu'on lui parle, qu'on lui dise et qu'elle se bouge. Tant de prostration que vous avez de temps en temps quand vous posez question. Donc il faut peut-être aller vous chercher. Introduction en psychothérapie. Amener le patient à être mieux en accord avec lui-même. Une situation relationnelle émotionnellement intense dans le cadre d'une relation d'aide, basée sur un système rationnel ou mythique, entrevoir des moyens nouveaux, vivre des expériences réussies. Psychothérapie n'est pas la panacée. Alors, panacée pour tout, c'est un pléonasme, donc ce n'est pas la panacée. Alors, ici, basé dans un système rationnel ou mythique. Vous avez des questions par rapport à ça? Vous avez bien compris? C'est très passif, dans le fond. C'est vrai, hein? Vous êtes fatigué du début d'après-midi, vous? Ouais. Système rationnel, c'est quand on peut expliquer à un individu, bon, vous avez été exposé à un événement stressant. Cet événement stressant était tellement fort que ça vous a dépassé et que maintenant, par ce fameux phénomène de mémoire flash, il se rejoue en permanence. Et c'est par une exposition progressive qu'on va pouvoir diminuer l'impact de ce stress qui se rejoue sur votre organisme, sur votre psychisme, pour avoir moins d'anticipation. Donc on a quelque chose de finalement rationnel. On a un mécanisme neurobiologique proposé et différentes choses qui vont pouvoir être mises en place pour pouvoir aider la personne. Ça peut être quelque chose de mythique. On va dire, mais dans le fond, nous sommes aujourd'hui en 2022 et comme tous les humains, vous êtes censé être un peu plus adapté au pléistocène. Vous vous souvenez du pléistocène? C'est au cours d'histoire? Un peu de culture aussi. Pléistocène. Et, à ce moment-là, non, parce que si vous voulez un truc mythique, bien sûr que vous devez sortir de l'ici maintenant. Je dis ça. Je vais vous raconter un truc. Genre n'importe quoi. Mais bon, ce que je vous racontais, c'est assez sérieux. Vous pouvez être adapté au pléistocène à un moment donné où les informations dans l'environnement étaient peu nombreuses. Il n'y avait pas 36 chefs au-dessus de vous. Il n'y avait pas une sollicitation de la part d'outils informatiques. Il n'y avait pas de rivalité qui était des rivalités de bureau. Il y avait moins de rivalité pour les hommes envers les femmes envers les hommes envers les hommes, les femmes, etc. Et puis vous vous retrouvez là maintenant, votre corps est adapté à ça, vos gènes sont adaptés à ça, et puis vous vous retrouvez à une époque où vous êtes sollicité, les enfants deviennent des adolescents, et autrefois, alors qu'ils étaient adultes, à partir du moment où vous avez tué leur premier animal sauvage avec leur lance, vers 15 ans, maintenant, ils seront adultes quand ils auront, je ne sais pas quoi, hérité une première fois d'un parent décédé à l'âge de 95 ans. Quel est donc ce temps très particulier dans lequel nous vivons maintenant et de toute évidence, vous n'y êtes pas adapté. Le problème ne vient pas de vous, mais le problème vient de cet environnement qui a changé beaucoup. Donc on fait appel à une histoire qui est une histoire qu'on va imaginer, qui est éventuellement plausible, et qui va faire se décentrer l'individu d'un problème proximal, se déculpabiliser, éventuellement, et puis on va travailler là-dessus, on va vous rendre plus apte à un environnement où on va essayer d'adapter l'environnement pour qu'il soit en état d'équilibre avec vous, par exemple. Donc, basé sur un système rationnel ou mythique. Les grands courants de psychothérapie analytique en référence à la psychanalyse avec Sigismund Freud, l'inconscience, l'inconscience infantile, le transfert, on verra ça, thérapie systémique basée sur la théorie du système, avec Paul Watzlawick, couple, famille, institution, psychothérapie comportementale, physiothérapie du conditionnement, Pavlov, renforcement, modification du comportement. On a vu ça en détail en psychologie générale. Hein. Ça, vous connaissez ça par cœur. Les formes de psychothérapie encore, thérapie basée sur la suggestion, introduire dans le psychisme des idées nouvelles, comme la petite histoire vient de vous dire. Vous pouvez demander à un individu... Alors, petite enquête, est-ce qu'il y en a qui rêvent fréquemment, toutes les nuits? Faites ça. Personne ne rêve. Qui rêve de temps en temps? Qui? Ah, c'est pas mal. C'est bien, en plus de lever les bras, c'est très bon pour l'appareil circulatoire. Demandez des questions. Qui se souvient de ses rêves très régulièrement? De manière vivide. Et qui arrive à influencer le contenu de ses rêves? Ouais, on continue? Ou des petites parties, au début, ou à la fin? Ça va?
Changer certains trucs,
je crois. Ah, c'est très bien. Alors, en fait, si on vous demande à un moment donné, en psychothérapie, ben, rapportez-moi un petit peu des éléments de rêve, parce que les rêves, c'est une production, quelque part, de la conscience, c'est bon, manifeste notre temps, et puis tout le monde rêve, et puis ce n'est pas juste le contenu que vous allez rapporter, la manière dont vous allez rapporter ce contenu, c'est déjà une transformation entre le moment du rêve, le rapport du rêve, et les filtres qui vont exister à cette mémoire, de plus en plus, les filtres de la décence qui vont vous faire éventuellement me raconter certaines choses de rêve et pas d'autres, etc.
Et si vous commencez à demander à un individu, mais dans le fond, les rêves, c'est important, ça nous permet d'avoir accès à toute série de choses, et vous lui demandez ça à chaque fois, c'est comme dans le cadre du lapin et du cake aux carottes, vous connaissez cette histoire-là? Vous connaissez le lapin avec des carottes? C'est exactement la même chose.
Quand on mange, c'est quand il y a un lapin qui veut manger, il ne mange pas avec des carottes. Oui, j'ai des carottes, et puis c'est pas bon. Il n'empêche que dans le processus, l'autre a fait du cake aux carottes. Et là, de la même manière, si on vous demande en permanence des bribes de rêve, des fragments de rêve, ou si vous-même, vous commencez à avoir un petit carnet sur votre table de nuit avec un petit crayon et que vous drillez à noter chaque matin le rêve ou les rêves dont vous souvenez, et bien ça va augmenter de manière extrêmement importante. Ça peut être l'intérêt, c'est l'intérêt, mais le point ici est juste qu'une suggestion d'importance, une suggestion d'un intérêt au sein d'une communication de soins va modifier vos contenus de pensée et votre capacité à pouvoir vous remémorer ces rêves. Idées nouvelles. Alors, il y a toute une série d'autres idées nouvelles qui peuvent être mises, hein, dans lesquelles je détaille desquelles je ne vais pas forcément venir maintenant. Alors, thérapeutique cathartique par abréaction émotionnelle, donc des émotions qui sont exprimées et qui vont permettre à l'individu d'être libéré de quelque chose. Alors, le fait de revivre des souvenirs est souvent extrêmement douloureux. Quand il s'agit de souvenirs douloureux, se remémorer d'un trauma, ravive le trauma, la question ici étant de voir comment ils peuvent conduire à une meilleure gestion de ce qu'ils déclenchent, comment la nuance peut être insérée là où il n'y a que des souvenirs extrêmement radicaux, par exemple. Alors, il y a différentes thérapeutiques dialectiques avec des échanges verbaux entre le thérapeute et le patient, hein, une sorte de
discussion, conviction, avec une certaine ouverture. Alors, est-ce que je vous parle de ça, moi ? Des éléments de psychopathologie. Cure de sevrage, ça peut peut-être intéresser certains d'entre vous. Alors, on va passer directement là. Contexte général, encore. On vient à la médecine généralement en toute ignorance des théories médicales, mais non sans idées préconçues sur bien des concepts médicaux. Et une des préconceptions que souvent les personnes ont par rapport à cet apprentissage en psychologie médicale est la capacité de son apprentissage et de sa transformation. Alors, la psychologie médicale a-t-elle une place dans le cadre d'une médecine scientifique ? Psyché, fonctionnement mental, médecine de la maladie versus médecine centrée sur l'homme malade, on en parlait un peu au début du cours. Naissance de la médecine scientifique au XIXe siècle, pourquoi faire intervenir alors la psychologie ? Il y a des progrès réalisés dans les sciences psychologiques, bon, avec des applications pratiques, mais ça ne justifie pas seulement l'utilisation de la psychologie médicale. Le succès même de la médecine d'organes ont permis de percevoir les limites de cette approche et de mieux cerner la place occupée par les autres facteurs interrelationnels. Il suffit de voir comment fleurissent toutes les ventes en parapharmacie, de choses qui ne sont pas forcément rationnelles, comment les plaintes peuvent parfois pleuvoir, avec des difficultés qui sont majoritairement des difficultés de communication, dans ces histoires de médiation entre une plainte d'un patient et un praticien bien déterminé, et comment cette revendication de médecine globale, d'approche holistique et d'approche de tout poil permettent de reposer non pas la question juste de la maladie, mais la question du malade. Est-il rencontré? Est-il écouté? Est-il satisfait? Peut-il être entendu? Et pouvons-nous l'entendre au-delà de cette incompréhension fondamentale? Alors, les succès de la médecine ont modifié notre conception de la maladie, avec une séparation du lésionnel et du fonctionnel, ce qui est une vue de l'esprit. Il peut y avoir des lésions fonctionnelles. Hein, pensons entre autres à des conversions avec une paralysie dite hystérique, mais paralysie d'un membre, sans lésion vraie, ou à ces manifestations de pseudo-épilepsie, qui peuvent alterner chez un même individu avec des manifestations d'épilepsie vraie, ça veut dire des manifestations de convulsion sans substrat électrique. Bon, donc cet aspect lésionnel et fonctionnel ne peuvent pas toujours être séparés comme ça. L'objectif de la médecine, c'est le repérage de ces lésions, des troubles dits fonctionnels, Babinski, l'atteinte de la voie pyramidale, la suite hystérique et hors du champ médical, palpitations, les vertiges, les spasmes, les agies qui sont sans support lésionnel, vont être un lieu de discussion par rapport à ça. Les réponses en tout ou en rien, ce n'est rien, vous faites des histoires pour rien, encore une fois, renvoie l'autre et aliène l'autre, renvoie l'autre à une négation de son vécu et de lui-même, puisqu'il est dans une position de régression égoïste. Il y a cette disparition des aspects temporo-spatiaux et il ne se tracasse que de lui-même à ce moment-là, comme malade. La médecine actuelle permet beaucoup plus aisément d'exclure des lésions. 55% des malades qui viennent consulter des médecins généralistes n'ont pas de maladie lésionnelle. La fréquence de tels troubles ne permet plus de les ignorer. Être malade, se sentir malade, versus avoir une lésion que l'on va devoir soigner et ne pas s'adresser à l'autre dans sa sensation d'être malade, ce sont tous des enjeux différents. Et on demande à la fois au médecin d'être rentable dans ce qu'il va prescrire, les examens qu'il va faire, mais à la fois de pouvoir garder une attention toute particulière à ces plaintes qui ne sont pas rationnelles, mais qui sont sensées. Alors, il peut y avoir des réponses du médecin face aux troubles dysfonctionnels, refuser de les prendre en compte, l'offre du symptôme liée à la demande affective et relationnelle. Bon, ça, c'est pas pour moi, mais vous irez voir un psy. C'est plus dans ses cordes. Moi, je suis médecin. Bon. Répondre par une tentative d'explication physiopathologique de ces troubles afin de leur conférer une authenticité médicale. Il y a un risque de confondre l'explication et la causalité et d'entériner le trouble. Vous avez eu un stress important qui a provoqué une dérégulation de votre système nerveux autonome qui sécrète un petit peu trop d'adrénaline par votre système nerveux sympathique. Et ces décharges adrénergiques nécessiteraient que vous puissiez mettre votre système nerveux sympathique au repos par la prise de telle ou telle substance, par l'exercice d'une médiation corporelle en faisant de la pleine conscience, par exemple, qui va aller réguler votre hypothalamus et au final diminuer votre sécrétion par votre système sympathique. Ok. Vous avez là encore une histoire qui permet à l'individu en face de vous de vous dire « Mais dans le fond, ça existe quand même. Mon stress, c'est pas rien du tout. » Et il y a un substrat biologique à cette affaire. Mais ce faisant, vous pouvez figer l'individu dans un hypothalamus dysfonctionnel, dans une sécrétion anormale qu'il faut rééquilibrer par des moyens extérieurs, etc., etc. L'explication peut donc venir donner ce statut à la maladie et aux malades, s'accompagnant alors de revendications diverses et variées chez certains malades. Il peut se demander, notre réaction, à quelle nécessité et à quel malaise interne répond chez le malade cette expression réitérée de trouble. Vous vous rendez bien compte que, nuancé comme ça ne peut être que la bonne proposition. Réflexion sur les besoins de cette personnalité et sur la nature de la relation engagée entre le malade, son entourage et le médecin. C'est une source de la psychologie médicale. Réfléchir avec l'autre, utiliser votre psychisme pour pouvoir réfléchir à la situation de l'autre, ce qui ne peut se faire qu'à partir du moment où vous êtes suffisamment perméable à la situation de l'autre que pour imaginer à quel point la situation peut éventuellement le ou la perturber. Tiens, on doit parler. Voilà, donc la maladie n'est plus, dans tous les cas, cet événement frappant un individu totalement étranger à sa naissance, la subissant et dont toutes les formes seraient tendues vers la guérison. L'organisme malade est impliqué, comme on l'a dit tout à l'heure, dans l'apparition, le déroulement et la guérison de la maladie. Je vous souhaite une bonne fin de journée.